Et nous continuons tout de suite avec notre première entrevue du jour. Tout d'abord avec Laurence Brière. Bonjour Laurence Brière.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté à l'UQAM. Avec vous également Karine Gentelet, qui est professeure et chercheure en sociologie au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Et vous êtes une des spécialistes au Québec des études au sujet des peuples amérindiens. Bonjour donc Karine Gentelet.
Bonjour. Et alors on peut voir également que vous êtes présidente du conseil d'administration d'Amnesty International. Donc d'ordinaire je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais c'est parce que ça nous amène dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Parce que par cette fonction que vous occupez, donc qui est publique, hein, on voit que vous êtes quelqu'un d'engagé au-delà de votre travail de recherche. Alors est-ce que cette double casquette, tout de suite j'attaque, hein, peut nuire à votre travail?
C'est probablement la question qu'on me pose le plus souvent.
C'est ça.
Alors, et en fait, ma double casquette, elle est même pire parce que quand j'ai commencé à être impliquée à Amnesty International, je travaillais sur les dossiers autochtones. Donc,
okay.
J'avais vraiment une double allégeance. Et je dois dire que c'est quelque chose avec laquelle je dois travailler. Premièrement, parce que dans mon milieu de recherche, être militant n'est pas toujours très bien vu. Donc déjà, il faut que je sépare les choses. Et ça, c'est directement en lien sur l'atelier. Est-ce que le militantisme, est-ce que la recherche militante est de la recherche ? Et ensuite de ça, c'est très important pour moi de séparer les deux, même si le fait d'être chercheur sur des questions autochtones et documenter des injustices sociales, politiques et économiques, citoyennes, etc., va influencer mes prises de position en tant que présidente du CA, d'une organisation de défense des droits. Mais j'essaye toujours de garder les deux, ne serait-ce parce que c'est pas toujours bien vu, effectivement, de mêler les deux. Et effectivement, il est arrivé des fois où je vais à des conférences et je précise quelle est ma casquette pour bien, justement, mettre les choses claires. Pour moi et pour les gens aussi à qui je parle.
Alors là, on parle de recherche en sciences sociales. Comme vous l'avez dit, ça peut être plus ou moins bien vu, cet engagement et ce biais que vous apportez à vos recherches par cet engagement. Qu'est-ce qu'il en serait si vous étiez biologiste, physicienne, chimiste? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi, avoir un biais lié à son engagement?
Bien sûr. Le fait, par exemple, de déterminer qu'est-ce qu'une... Par exemple, quand on parle de l'avortement des cellules, qu'est-ce que, à partir de quand est l'être humain ? C'est une question qui est hautement politique et hautement philosophique et souvent, par exemple, aussi des médecins qui refusent de pratiquer l'aide médicale à mourir. C'est une décision qui va influencer une pratique, qui influence une pratique, une réflexion. Mais ça vient de l'individu, ça vient pas forcément...
Ça n'a pas de lien avec la science.
Non.
Par exemple, vous, Laurence, vous étudiez en environnement, et donc là, clairement, il est possible de militer et de faire des recherches en environnement.
Mmh. Oui, à mon avis, c'est même un devoir que d'être militante quand on étudie et on travaille dans le domaine des sciences, de l'environnement, de l'éducation, de la formation en matière d'éco-citoyenneté. Si on parle d'éco-citoyenneté puis qu'on n'est pas soi-même engagé, il y a un enjeu, hein? Il y aurait comme une déconnexion entre ce qu'on étudierait puis qui on serait comme personne. Puis ce serait un non-sens, à mon avis, que de mener une recherche de manière qu'on dirait dégagée et en retrait de son objet.
Okay. Alors, Karine Gentelet nous le disait, pour clarifier les choses, quand elle arrive dans des conférences, des colloques, elle annonce la couleur et elle expose son engagement et son biais dans ses recherches. Qu'en est-il de concilier recherche et militantisme, par exemple, dans l'environnement, dans votre cas?
De mon côté, ça se pose très bien. D'ailleurs, moi, je fais la même chose quand je présente ou quand j'enseigne. Je situe toujours qui je suis, d'où je pars, quelles sont les valeurs qui guident mes recherches. J'ai terminé ma thèse l'an dernier, puis il y avait un chapitre où je précisais d'entrée de jeu quelle était la démarche éthique qui était derrière la production de connaissances de cette thèse.
Un peu comme des conflits d'intérêts, finalement. Vous précisez tout de suite ou là, on ne se situe pas dans le conflit d'intérêts? Allez-y, c'est vraiment une question naïve.
À mon sens, ce n'est même pas une question de conflit d'intérêts. Ouais. Je ne me sens pas en conflit. Au contraire, je me sens en cohérence. Et donc, c'est plutôt une question de transparence au regard de qui je suis pour avancer ça puis faire une recherche comme celle-ci et pour arriver aux résultats qui sont ceux-là.
Okay. Et je rajouterais, par rapport notamment, je suis d'accord avec Laurence, c'est pas une question du tout de conflit d'intérêts, c'est une question aussi, quand on travaille en sciences sociales et en tout ce qu'implique les êtres humains, il y a toujours une notion de flou, qu'on n'a peut-être pas dans d'autres sciences comme la biologie. Et il est toujours important de préciser ce flou. Et en fait, finalement, c'est une question d'éthique, une question de méthodologie, de dire voilà d'où je pars, voilà qui je suis, voilà quels sont les objets avec lesquels je travaille, voici les méthodologies avec lesquelles je travaille. Mais ce n'est pas une question de conflit d'intérêts, vraiment.
Ok, je comprends. Alors, d'ordinaire, je me garde bien de faire des anecdotes personnelles dans cette émission, mais en 2012, comme sans doute on devait être nombreux, j'avais mon carré rouge au laboratoire, et un chercheur m'avait dit... On s'était croisés dans l'ascenseur. Un chercheur m'avait dit qu'il ne prendrait pas position sur cette question de peur de se voir refuser un quelconque financement dans le futur. Moi, je suis en biologie, hein, pardon. Et alors, est-ce que c'est moi qui mélange tout ou est-ce que là, on a une vraie raison pour rester neutre ou du moins ne pas afficher son opinion ? Là, la neutralité en science, elle se situe où ?
Moi, je dirais que... La neutralité, vous avez parlé d'opinion, c'est pas une opinion. Parce que souvent, quand on peut être militant, et puis c'est ce que Laurence disait, par exemple, moi je vais travailler sur les questions autonomes, je documente. À la lumière de ce que je documentais, souvent j'ai matière à agir. Oui. Parce que on parle sur les questions autochtones, on va parler de discrimination systémique, on va parler... Donc en fait, c'est la recherche qui permet de documenter l'action.
Okay.
Donc c'est plus qu'une opinion, c'est vraiment appuyé par des preuves scientifiques. Ok. Ensuite de ça, il y a effectivement dans le milieu de la recherche, et c'est la raison pour laquelle moi je travaille beaucoup là-dessus et qu'on est avec des collègues, avec Laurence, avec d'autres collègues, où on essaye de discuter de ces enjeux-là. La neutralité, ça n'existe pas, et essayons de voir comment est-ce qu'on peut déjouer cette espèce de concept comme quoi la neutralité, c'est ce qui fait la science. D'en parler et de lever les tabous. Un peu de dire, voilà, la science est comme ça, c'est correct si elle est comme ça, mais il faut le savoir. Que la biologie n'est pas neutre, que la médecine n'est pas neutre, que la science sociale n'est pas neutre. Il y a toujours des a priori qui interviennent. Votre collègue en a parlé un peu avant, que ce soit le chercheur, le contexte, l'institution, tout ça est lié. Mais au moins qu'on le sache. Et je trouve que c'est dommage dans l'université, où c'est un milieu de réflexion, un milieu de discussion, qu'on mette encore ça comme tabou. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas discuter. C'est dommage, on doit discuter de tout dans l'université. Et c'est la raison pour laquelle moi j'agis et je milite même pour qu'on lève ces tabous-là, qu'on en discute.
Ok, mais là dans mon exemple de la biologie, c'est sûr que ce n'est pas documenté par nos recherches, est-ce qu'on augmente ou pas les frais de scolarité. Donc c'est relatif à une opinion, mais pour autant, là, c'est ça, il m'indiquait que ça pouvait avoir un impact sur son financement. Mais donc là, en quoi ça rentre dans la neutralité de la recherche, dans le sens où, c'est ça, lui, il n'a rien documenté là-dessus. Donc, okay.
Le gouvernement va réclamer une neutralité, finalement ? C'est peut-être un peu ça, ta question.
Oui, voilà. Est-ce que le gouvernement se doit, par exemple, vous qui êtes impliqué, est-ce que le gouvernement a un droit de regard sur le fait que vous soyez militant et vous risqueriez d'avoir des préjudices là-dessus ?
Ben oui.
C'est plutôt ça.
Mais sauf que si, en tant que chercheur, on croit à la liberté d'expression, on croit au fait qu'il faut mener des recherches qui soient, je dirais, intègres et qui reflètent ce qu'on observe, par exemple,
oui.
Je ne vois pas en quoi le gouvernement a à faire. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Moi, je suis jeune professeur, je ne vais pas non plus... je pense qu'il faut malheureusement encore faire attention. Mais plus on sera nombreux à travailler là-dessus, plus on sera nombreux à demander de la réflexion et des échanges là-dessus, plus ce sera facile.
Exact.
Il y a toujours ça aussi. Moi, je me rappelle, j'ai essayé de diffuser une recherche que j'avais faite pour Amnesty sur des violations de droits territoriaux de groupes autochtones au Québec.
Okay.
Les protocoles de recherche d'Amnesty sont extrêmement sévères. Et la recherche, ils n'ont pas voulu diffuser la recherche parce que c'était une recherche militante. Ça, c'est un autre exemple. Pourquoi ? Bon, après ça, j'ai compris. Je me dis, ils ont eu peur de perdre des subventions ou quoi que ce soit. Mais d'où l'idée d'en parler tous ensemble et de désinvisibiliser ou de déconstruire ces tabous-là pour arriver à faire une recherche de qualité. Je pense que le milieu scientifique a intérêt à gagner en qualité, enfin, gagnera en qualité de faire ça.
Alors, je me tourne vers vous maintenant, Laurence Brière. Karine Jonquet nous disait que la neutralité, c'est pas une opinion. Même la neutralité, ça n'existe pas. Quelle est votre opinion là-dessus ? Est-ce que pour vous aussi, la neutralité, ça n'existe pas ? Puisque c'est le thème du jour.
Effectivement, à mon sens, ça n'existe pas. C'est difficile de faire une recherche, peu importe dans quel champ disciplinaire on l'a fait, en mettant de côté ses a priori, qui l'on est, ses valeurs, son idéal de vie bonne, etc. Si on fait de la recherche dans le domaine de l'environnement, qui est mon domaine, on a une perspective sur qu'est-ce que devrait être notre rapport aux écosystèmes, sur qu'est-ce que devrait être un environnement de qualité, etc. Mais quand on fait cette recherche-là, c'est derrière. Et puis, on a beau être dans des recherches plus en sciences biophysiques, où est-ce qu'on va pas mettre de l'avant ces perspectives-là plus éthiques ou crées. Et malgré tout, ce sera là en trame de fond. Donc, pourquoi pas le présenter puis le clarifier? C'est ma perspective.
Et alors, si on gagnait en qualité, justement, en admettant qu'on n'est pas neutre, est-ce que vous avez des exemples de, je veux pas des noms, hein, mais de certains chercheurs ou certaines recherches qui poussent cette neutralité jusqu'à faire des recherches qui invalideraient leurs propres convictions, leurs propres croyances? Est-ce que ça, il y en a? Ou justement, non, parce qu'on va souvent quand même dans ce qui fait nos convictions. J'entends, je sais pas, un exemple, par exemple, est-ce qu'on aurait quelqu'un qui travaille en environnement, donc qui voit clairement que les changements climatiques sont dus à l'activité humaine en grande partie, et pour autant qui ferait des recherches qui iraient dans un autre sens? C'est peut-être plutôt le contraire, mon exemple, mais...
Ben, certainement que ça doit exister. Moi, j'ai pas documenté ça,
ouais,
mais
ça.
On entend toujours, à un moment donné, bon, une personne ou une autre qui, à un moment donné, se rend compte que ce qu'il fait, ça va, c'est pas en cohérence avec ses valeurs, puis il change de champ, il change d'objet de recherche, ou, tu sais, on l'entend, mais j'ai pas documenté.
Peut-être pour le formuler un peu autrement, la question peut s'appliquer, je pense, à vos deux champs de recherche. Donc, on sait qu'il y a des contacts, des consensus scientifiques. Alors, en environnement, c'est vrai. Ça peut être vrai aussi tout à fait en sociologie, en histoire. Il y a des consensus scientifiques. Il y a des faits qui sont là, qu'on peut pas contester. Malgré tout, on sait qu'il existe des scientifiques qui sont capables d'endosser des thèses qui vont à l'encontre de ces consensus scientifiques. Est-ce que, donc, admettre que la neutralité n'existe pas, c'est pas aussi prendre le risque de donner la parole à ces personnes?
Il y a toujours un risque. Mmh. Il y a un risque qui est présent partout. Je trouve que le grand problème, c'est de dire qu'il n'y a pas de risque. En science, il y a un risque. Quand on fait de la recherche, il y a un risque de se tromper, un risque de ne pas voir exactement, de ne pas avoir, je dirais, le bon cadre théorique ou les bons concepts pour décrire ce qu'on voudrait décrire, parce que justement, on travaille dans un champ de recherche avec une certaine perspective, et après on s'aperçoit que ce qu'on a produit comme cadre conceptuel, par exemple, ne correspond pas du tout à ce que les acteurs de terrain vont voir. Il y a un risque, mais ça fait partie de la recherche. Et justement, moi encore là, le mot c'est désinvisibiliser, c'est ne pas prendre ça pour acquis et de le mettre, de dire oui, il y a un risque. C'est correct qu'il y ait un risque. Le truc, c'est de le savoir qu'il y a un risque et de le mettre bien visible et de travailler avec.
Oui, c'est ça, c'est pas faire semblant qu'il n'y en a pas. Non. C'est vraiment être transparent, comme vous disiez.
Et j'ajouterais, à mon sens, il faut qu'il y ait le débat. Hein, la science doit être débattue, puis à mon sens, à moi, la vérité, elle est intersubjective, justement. C'est dans la co-construction qu'on va arriver à une meilleure compréhension des différentes réalités que nous vivons, que nous étudions. Et donc, oui, vive le débat.
Vive le débat.
Le consensus, il n'est pas si riche que ça.
C'est une très belle conclusion. Vive le débat. Alors, pour ceux qui veulent continuer à débattre et qui veulent se renseigner sur ce sujet, vous avez donc plusieurs colloques. Je lis ma fiche, le colloque numéro 6. Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre, notamment le panel, la question de la conciliation entre recherche et militantisme, perspective, pratique et critique, dans le bâtiment Rutherford. Et c'est aujourd'hui, c'est bien ça?
Jusqu'à vendredi.
Jusqu'à vendredi, très bien.
Alors, j'ai peut-être une dernière question pour rejoindre ce que disait notre chroniqueuse lundi, Nadia Lafrenière, sur cette question. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de rigueur? C'est-à-dire que, quel que soit, en effet, notre biais, s'il en est, ou notre militantisme, dans tous les cas, un scientifique se doit d'être rigoureux. Donc, en ça, quels que soient ses biais, est-ce qu'on peut penser que si on met la question de la rigueur au centre, on pourrait, j'allais dire, résoudre cette question des biais, ou est-ce que je rêve et c'est de l'utopie?
Mais en fait, là, pour le coup, je risque de plus pouvoir parler à mes collègues si je leur dis qu'ils manquent de rigueur, honnêtement. Tout comme nommer celui qui n'y a pas ou celle qui n'a pas des pratiques. Donc, on évite. Mais peut-être le prendre différemment. Parce que rigueur veut dire qu'on a un jugement moral sur ce qui se passe. Ça veut dire qu'on manquerait de rigueur. Donc, peut-être justement amener amener d'autres valeurs peut-être plus positives et travailler différemment. Peut-être ça peut être une des choses, et de dire voilà, prenons le dialogue. Et à partir du moment où on a un dialogue, où on fait des débats, bon ben on pose plus la question en termes de ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on dépasse ce clivage-là. Parce que c'est une des choses aussi de dire que la recherche qui est militante, par exemple, puisque moi c'est plus là-dessus que je travaille, c'est une mauvaise recherche. Ça aussi c'est un jugement moral. Donc on enlève rigueur, puis on dit débattons et débattons.
Ok.
Voyons ce qu'il en ressort.
Okay. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous deux pour être venus répondre à nos questions aujourd'hui.